va nous donner pour l'instant son... Ah bah voilà, elle a un micro, tout est prévu. Et donc, elle va nous donner son témoignage. Et puis, on chantera un ou deux chants, et après, elle apportera un message, une parole que le Seigneur lui a donnée. Et puis ensuite, après ce message, il y aura la présentation de son projet pour les années qui viennent. Voilà, je te laisse la place.
Bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas encore vus, j'étais là un petit peu tôt ce matin. Donc je m'appelle Sabrina, je viens d'avoir 48 ans le 24 décembre. Je suis célibataire avec deux chats. Je vis actuellement chez ma mère depuis 6 mois, hein, puisque j'ai mis ma maison en location pour pouvoir partir. Donc actuellement je suis sur Musillac. Autrement d'habitude je vis à Vannes. Je remercie Jean-Marc pour cette invitation, parce que c'est toujours un plaisir pour moi de parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vraiment quelque chose d'extraordinaire, et qu'aujourd'hui le monde croit que ce n'est plus possible. Et moi je suis un témoignage que Dieu transforme réellement les vies. Et en préambule quand même, je vais vous dire que je viens de faire mon dernier jour dans mon entreprise, donc grande entreprise de transport, la SNCF, à Vannes. 17 ans que j'y étais. 14 décembre, c'était mon dernier jour, et j'étais gestionnaire ressources humaines sur mon dernier emploi. Donc j'avais une grosse équipe de 50 personnes, et j'ai pris une année sabbatique de 11 mois. Et ensuite, je peux continuer sur un congé pour convenance personnelle jusqu'à 4 ans supplémentaires. Donc mon but, c'est de partir en mission un peu plus longtemps que 10 mois. Je vais démarrer donc par un témoignage de conversion. Assez rapidement, sur le témoignage de conversion, j'approfondirai plus le témoignage de restauration. Donc je pars le 17 janvier, si vous comptez, c'est dans 3 jours. Je n'ai toujours pas fait mes valises. Je pars donc de Nantes et je pars pour le Bénin. Le 17 janvier, mais si je suis aujourd'hui là, debout devant vous, c'est parce que ça a commencé par la prière de ma mère. Et je vais vous lire un texte, rapidement. Dans Matthieu, chapitre 9, verset 35, « Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. » En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. » Ma mère venait de se convertir, quelques mois, ou peut-être un an ou deux ans, et elle a lu ça dans sa chambre un soir. Elle a été profondément touchée, elle a dit « Mais Seigneur, il te manque des ouvriers pour la moisson, mais moi je te donne ma fille. » Et c'était un contrat, une alliance avec Dieu. Elle lui a dit « Sérieusement, je te la donne pour aller dans les nations. Je sais Seigneur, ça va être dur de laisser ma fille, parce que c'est ma fille, mais tu viendras me consoler. » Et elle a vraiment prié, et elle m'a donné à Dieu, et aujourd'hui si je suis debout, là, à 48 ans, c'est parce que Dieu a répondu à cette prière qu'il avait mis dans son cœur. La suivante... Encore. Donc 26 ans de préparation, mon parcours jusqu'à ma conversion en Afrique du Sud à 22 ans. Donc contexte familial, ma maman s'est convertie quelques années après son mariage, donc j'étais toute petite, je vais avoir 3-4 ans. Et mon papa était d'une famille chrétienne catholique, mais vraiment traditionnelle, puisque à l'heure actuelle, mon père est toujours athée. Donc il nous faisait prendre le baptême ou aller aux cérémonies religieuses par tradition, par respect familial, mais aucunement pour une notion de foi. Donc maman a toujours prié pour ses enfants, et même si on n'allait pas dans une église, parce que c'était compliqué avec mon papa, hein, il y avait beaucoup d'opposition dans la famille, elle priait avec ses enfants, elle nous parlait de Jésus. Et je me souviens, depuis toute petite, que quand maman ou moi j'avais fait une bêtise, ou qu'elle s'était trop énervée, eh ben, on se mettait à genoux toutes les deux dans la chambre et on demandait pardon au Seigneur. Et ça, c'est des graines qui ont germé dans mon cœur et qui ont toujours continué de pousser dans ma vie. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai pas souvenir d'avoir eu un moment de ne pas avoir cru en Dieu, et les œuvres de Dieu dans la création me parlaient de lui. Et de temps en temps, quand j'avais besoin, d'un secours, je m'adressais à Dieu. Mais ma vie n'était pas du tout conforme à celle de Dieu. Et donc, j'ai grandi. Et à l'âge de 11 ans, j'avais des amis. Puis j'en ai un qui a eu un grave accident de mobylette et il est mort. Et j'ai vu la mort pour la première fois à l'âge de 11 ans. Mais quel cadeau! La Bible dit qu'il vaut mieux être dans une maison où il y a un deuil que dans une maison de fête, parce que ça nous fait réfléchir. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une âme et que cette personne, elle était partie où, en fait? Et puis j'ai vu aussi que la vie pouvait être réclamée demain, là, et que je n'allais peut-être pas avoir 80 ou 90 ans de vie. Et en fait, quel était le sens de la vie? Et puis si on pouvait mourir demain, bah, autant en profiter. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par les fêtes, l'alcool, puis à peu près de fil en aiguille, je suis allée dans la drogue, c'était mieux la drogue. Et on m'avait offert une Bible, et au fur et à mesure des années, ma petite boîte de cannabis était là, et puis la Bible, je la poussais en fait, et c'était le cannabis qui prenait le pas, jusqu'à que je ne puisse plus m'en sortir en fait, puisque dès le matin, je me levais, je roulais un pétard, je consommais de la drogue toute la journée jusqu'au soir pour m'endormir. Et puis j'ai commencé à monter sur des drogues un petit peu plus dures, donc j'ai commencé à prendre du LSD sous forme de champignons hallucinogènes. J'ai d'ailleurs initié ma petite sœur qui est là à toutes ces pratiques. Mais juste avant de partir en Afrique du Sud, Dieu voyait mon cœur, je cherchais Dieu, hein, mais je comprenais rien à la mort de Jésus-Christ. Et puis j'allais partir sur des drogues bien plus dures, parce qu'on a commencé à me proposer des extasies sur des... Donc j'allais vraiment passer sur un niveau supérieur. Je faisais 48 kilos quand je suis partie là-bas. Donc j'étais toute fine. Et ma vie, en fait, c'était moi qui voulais sortir du métro boulot dodo. Je suis tombée dans drogue, se divertir, dormir, drogue. Et j'étais dans un autre système qui était encore pire que celui que je voulais rejeter. Et j'arrive en Afrique du Sud, dans un centre missionnaire avec des chrétiens. Et là-bas, j'ai été touchée par l'amour de Dieu à travers les gens. Un soir, je parle de ma vie à une missionnaire sur le terrain. Elle parle anglais, mais elle me dit « Jesus loves you ». Jésus t'aime. Et malgré toute la vie que j'avais, elle pleurait. Et j'ai été touchée par la compassion de cette fille pour moi. Et puis un soir, je décide de lire tout le livre de l'Apocalypse. J'avais une Bible depuis des années. Alors là, je lis tout le 22 chapitres. Et je vois qu'il y a un jugement, hein. Je vois la colère de Dieu, la justice de Dieu sur le péché. Et tout d'un coup, il y a un verset. À tous ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, en fait, ils avaient une tunique blanche, ils pouvaient se présenter devant Dieu. Et là, je me suis dit, waouh, moi, si j'ai une robe, elle est toute tachée. Parce que tous les péchés que j'ai faits, le mensonge, vendre du cannabis, consommer... avoir des relations comme ça, très, très, très libres. J'ai dit, moi, je suis tachée, en fait. J'ai beau croire en Dieu, si je meurs là, je vais en enfer. Et j'avais peur de la mort. Et à ce moment-là, j'ai compris que Jésus était venu pour mourir pour moi et porter mes péchés, et qu'il y avait une voie, un espoir. Et là, je me suis agenouillée, je me suis repentie, j'ai dit, Seigneur, je suis pécheur, j'ai péché devant toi. Je te reçois dans ma vie, je me soumets à toi, je veux devenir disciple de Jésus et recevoir ton pardon. Tout simplement, j'ai vécu cette repentance. Le lendemain, j'ai été remplie de l'amour de Dieu. Je pouvais le toucher dans mon cœur. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et d'une personne qui était dans la drogue, qui se détruisait, finalement, Dieu est venu vraiment me pardonner, me libérer. Je savais que j'avais un Père qui était au ciel. Et ma vie a commencé à être transformée à ce moment-là. Donc j'ai été remplie du Saint-Esprit. Un feu pour annoncer l'évangile est monté en moi. Et un feu pour annoncer l'évangile en mission. Donc je suis rentrée en France. Il y a eu des fruits. J'ai vu des conversions. Je parlais de Jésus à tout le monde. Et là, on va passer sur la deuxième partie. Tu peux encore. Ouais, encore. Ce que je ne vous ai pas dit dans mon témoignage, c'est que quand maman elle a rencontré le Seigneur, mon père est devenu quelqu'un qui a été très opposé. Il n'y a pas besoin d'aller dans des pays musulmans pour vivre la persécution. Il faisait des crises pas possibles dans la maison. Il arrachait les livres chrétiens de ma mère. Il mettait la Bible au feu. Il hurlait. J'ai vu des crises étant toute petite, absolument incroyables par rapport à Dieu. Et en plus, je crois que ça a fait partie de ma construction pendant mon enfance, mais L'image de l'homme par mon père a été très abîmée parce que j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir très petite, réveillée par des cris et des scènes de violence. Et je pense qu'à ce moment-là, j'ai intégré que ce n'était pas bon d'être une femme, qu'on était vulnérable, faible, et que l'homme était fort et était une menace, déjà toute petite. J'ai grandi comme un petit garçon. Je n'ai aucun souvenir d'avoir été une petite fille. J'ai eu que des jeux de garçon. Je m'habillais comme un garçon, je croyais être un garçon. Je faisais pipi comme un garçon, j'étais un vrai garçon manqué. J'ai grandi comme ça, jusque l'âge adulte. Parce que je pense que déjà, l'image de l'homme a été très très abîmée dans mon cœur toute jeune. Quand ma sœur Solène est née, donc c'est la deuxième, on m'a dit que c'était une petite fille, je ne l'ai jamais regardée. C'était une petite fille, je ne voulais même pas la voir. Et donc mon image de femme a été très abîmée déjà petite. Et à 11 ans, j'ai vécu des abus sexuels avec 4 garçons dans mon quartier. Et ça a été les premiers abus. Après, il y en a eu d'autres tout au long de mon adolescence. Et jusqu'à l'âge adulte, même du harcèlement sexuel au niveau du travail, etc. Et j'aimerais vous lire Ésaïe 61 parce que c'est ce qui m'a tenue et c'est ce qui m'a permis d'espérer à une reconstruction. L'Esprit de l'Éternel du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et apporter à ceux qui sont dans Sion et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Donc ce texte, je l'ai eu quand j'ai pris mon baptême, et il m'aura suivi toutes les années, et encore il me suit. Parce que la restauration, la sanctification et la préparation, c'est tout au long de notre vie chrétienne. En tous les cas, je suis arrivée à ma conversion avec tous mes bagages et mon passé et les abus que j'avais vécus et ma construction d'identité sexuelle complètement perturbée. J'étais absolument persuadée d'avoir un corps d'homme. C'est-à-dire que quand je me regardais dans une glace et que je voyais mes attributs féminins, je voulais juste les couper. J'étais persuadée d'avoir un corps d'homme et j'étais persuadée que Dieu s'était trompé à mon sujet. J'avais un mépris du féminin absolument faramineux, tellement que mon autre petite sœur, qui est très féminine, je l'ai blessée je ne sais pas combien de fois parce que son féminin me heurtait, me blessait, tellement il y avait ce mépris. C'était pas bon d'être une femme pour moi. Et des mensonges sont venus, donc j'ai aussi du coup... garder cette haine de l'homme pendant des années. L'image de l'homme, pour moi, était une menace, quelque chose de néfaste dans ma vie. Et donc, j'arrive dans la vie chrétienne comme ça, et je suis remplie du Saint-Esprit, et je crois vraiment que tout est parfait dans ma vie. À partir du moment que j'ai le Seigneur, tout va bien. Et bien sûr, j'ai commencé à dysfonctionner, hein, des grosses racines de rejet. Je ne comprends pas bien l'amour de Dieu. Je crois qu'il faut que je fasse pour marcher avec Dieu. Des choses, il faut que je sois parfaite. Et beaucoup de culpabilité, de condamnation. Et j'ai des problèmes dans mes relations. Ma famille, ça explose parce que je suis une très, très sensible et hyper susceptible. Et pourtant, je suis en Christ. Je suis née de nouveau. J'ai été justifiée, pardonnée et je dysfonctionne. Et Dieu m'utilise malgré tout pour parler autour de moi et témoigner, parce que j'ai toujours ce feu qui m'habite. Et à l'âge de 30 ans, donc 8 ans après ma conversion, Dieu est venu toucher ces parties que j'avais mises dans un tiroir. Donc la première chose qui s'est passée par rapport à mon identité... Donc il faut savoir que j'étais peintre en bâtiment même, hein. Donc les blessures ont des répercussions dans tous les domaines de nos vies. Et à 30 ans, j'ai été obligée d'être licenciée pour maladie professionnelle, parce que je n'avais pas les capacités physiques pour être peintre. Et là, je suis rentrée dans un nouveau travail à la SNCF. Mais à ce moment-là, à 30 ans, un soir, lorsque je priais, je venais de lire la Bible et je priais, et tout d'un coup, j'ai regardé mes mains et cette pensée est venue très fort en moi. Tu as des mains de femme. Ta main, c'est une main de femme. J'étais persuadée d'avoir les mains de mon papa, un mensonge. Et je regarde ma main, c'est la première vérité que j'ai reçue. Un fragment. Je ne pouvais pas entendre que j'étais une femme. Donc, tu vois, des mains de femme, et je fais... Oh! Mes yeux s'ouvrent, et je vois que j'ai une main de femme, et je dis, mais oui, mais en fait, j'ai même les mains de ma mère, en fait. Mais c'est incroyable! Et ça a été le premier pas de ma restauration. Bien sûr, après cette vérité, vu que je l'ai acceptée, elle a pu venir dans tout mon être, dans l'intérieur comme dans l'extérieur. Mais les abus sexuels, ils n'étaient pas sortis. Et à peu près sur la même période, je me suis rendu compte à travers une intervention extérieure que j'avais des symptômes d'une personne abusée, que je dysfonctionnais quand elle a cité les symptômes. Et j'étais pas bien, ça brassait ici à l'intérieur de moi. Et en fin d'après-midi, j'ai dit, mais j'ai vécu des abus. Parce qu'en fait, ce que j'avais fait, tellement la douleur, elle avait été violente quand j'ai vécu ces choses-là, que j'avais mis ça dans un tiroir. Et j'avais dit, j'avais fermé à triple tour, puis j'avais jeté la clé dans un abîme profond. Et j'avais dit, ça n'a pas existé, c'est pas arrivé. Parce que quand vous vivez comme ça des blessures suite au péché de l'autre, qui vient sur vous, en aucun cas je suis responsable des abus que j'ai vécus. Mais il vient de vous souiller, c'est vous qui avez honte, et c'est vous, vous êtes une victime, et à la limite, vous êtes le bourreau. Et puis l'ennemi vous garde dans le secret, dans les ténèbres, pour surtout pas que ça vienne à la lumière et que Dieu vienne restaurer votre cœur. Parce que les conséquences dans ma construction d'identité sexuelle ont été dramatiques, dans mes relations, dans tout ce que j'étais. Et peut-être pas vous, mais moi, quand je me suis convertie, on m'a donné 2 Corinthiens 5:17, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, donc on ne parle pas du tout de ce qui s'est passé avant. Donc c'était normal que j'en parle pas. Seulement à ce moment-là, c'est venu comme une grosse claque dans le visage. Mais tu as vécu ça. Alors première chose que j'ai fait, j'en ai parlé au Seigneur. Je me suis agenouillée dans ma chambre, je suis sortie du déni. J'ai dit, Seigneur, voilà ce qui m'est arrivé à 11 ans. Je n'ai pas pu encore tout dire dans les détails parce que j'avais honte. J'étais sale, souillée. Et deuxième chose, j'ai appelé une amie chrétienne qui était infirmière. Je me suis dit, elle a du bagage, elle va pouvoir bien m'entendre et avoir de la compassion et pas me juger. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai vécu, tu peux écouter. Elle a pris le temps qu'il fallait, elle m'a écouté. Waouh, comment ça m'a fait du bien de dire ce qui m'était arrivé. C'était resté dans le secret, ça m'avait construit, ça avait construit sur une fausse identité, et je ne rentrais pas dans l'identité que Christ m'avait donnée, rachetée. Et Dieu m'a encouragée, donc ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, je vous raconte ça très vite, ça a pris des années. Mes sœurs ont été formidables, elles m'ont accompagnée, parce qu'il a fallu que je change ma garde-robe. C'était que des vêtements masculins. Je n'allais jamais dans un rayon de femme. Je ne connaissais pas. C'était rayon homme. Je n'avais pas porté de talons de toute ma vie. Je n'étais pas du tout féminine. Je laissais mes cheveux longs pour qu'on sache que j'étais une fille. Mais toute mon enfance, on me donnait les cahiers des garçons pour les coupes de cheveux. Et on me prenait tout le temps pour un garçon. Bah, quelque part, ça me plaisait. J'étais forte, costaud et on ne pouvait pas me faire de mal. Pourtant, ça continuait. À savoir que quand on vit des abus, notre intimité, c'est comme un jardin que Dieu a donné, avec une clôture. Il y a une maison, il y a des fleurs, le jardin, il est magnifique. Et quand on vit des abus, quels qu'ils soient, le portail a été fractionné, il a été violenté, et le jardin a été piétiné, il n'y a plus de fleurs, tout est dégueulasse, ça a été ravagé. Il n'y a plus de porte sur la maison, il n'y a plus de poignée pour ouvrir. C'est open bar, vous pouvez y aller. C'est-à-dire que moi, mes limites, il n'y en avait plus. Donc les persécuteurs et ceux qui ont un problème, des pervers, hein, comme on peut appeler ça, où on en côtoie partout, même dans le milieu chrétien, parce que j'ai vécu des abus spirituels dans le milieu chrétien avec des hommes pasteurs, eh bien, c'est comme si dans le milieu, dans le monde spirituel, on voit qu'il n'y a plus de limites, qu'elle a été abusée, vas-y, c'est libre. Parce que moi, je ne savais pas dire non, je ne savais pas arrêter, j'étais comme un oiseau qu'on emprisonnait. Et je continuais de vivre du harcèlement, etc. Jusqu'au jour où Dieu, quand il est bien venu restaurer mon jardin, quand il est revenu me donner mon identité, quand il m'a dit que j'étais une femme et m'a laissé devenir cette femme par la puissance du Saint-Esprit, il est venu reconstruire les ruines, les ravages. Bien, j'ai pu dire non. J'ai vécu un harcèlement au travail et j'ai pu dire, en tremblant, en disant, mais Seigneur, aujourd'hui, tu as remis les limites. Et je lui ai dit, aujourd'hui, tu ne me touches plus, tu ne me regardes plus, tu ne me fais plus de bisous, tu ne passes plus ta main dans mon dos. Mais jusqu'à présent, je ne pouvais pas dire non. Ce n'était pas restauré. Et pourtant, je marchais avec le Seigneur. J'avais une relation extraordinaire avec Dieu. J'ai quand même noté dans mon petit document, parce qu'il y a toujours plein de choses à raconter, mais et je vous le fais très rapidement, mais je vais à un séminaire à Lyon quelques temps après ça, quelques mois, et je dors chez une dame qui s'appelle Marie-Ange, elle ne me connaît pas, on se connaît de nulle part, et on parle ensemble le soir, mais très, très brièvement, et le lendemain, pendant le séminaire, elle est gênée, elle vient me voir, elle me dit « Sabrina, écoute, je ne sais pas pourquoi je suis gênée, mais j'ai l'impression que Dieu me demande de t'offrir mes boucles d'oreilles. Dieu m'a fait cadeau de boucles d'oreilles pour m'encourager dans ma restauration du féminin. C'est pas un Dieu merveilleux et encourageant. » Et j'ai pleuré, j'ai dit « Mais si tu savais ce que je vis, mais Dieu est en train de m'encourager et me dire « C'est bon Sabrina, je suis avec toi, continue. » Parce que c'est pas facile hein, de sortir tout ce qui a été emmagasiné en nous, toutes les forteresses qu'on s'est construites. Alors j'étais comme dans une tour, j'avais construit mon identité dans cette tour, une fausse identité de tout ce que j'avais vécu. Et Jésus est venu enlever chaque pierre l'une après l'autre et j'ai reçu son identité, il est venu construire son identité dans mon cœur. Ça c'est le plus beau cadeau, parce qu'aujourd'hui je suis une femme, je m'aime d'une façon saine, quand je me regarde je me trouve jolie. J'aime bien l'image que je renvoie et je dis plus que Dieu s'est trompé, c'était un mensonge qui était là depuis petite, avec lequel je me suis construite. L'ennemi voulait me détruire. Oui, je suis allée dans la drogue, dans l'alcool, j'avais de profondes souffrances. Mais Jésus libère et restaure des personnes qui ont des problèmes avec leur identité de genre. Aujourd'hui, on dit qu'il faut tout laisser. Si elle se sent fille, alors qu'elle est garçon, il faut la laisser. Oui, c'est des gens qui ont vécu des choses certainement dramatiques, mais Dieu libère et Dieu guérit. Je ne me suis pas forcée. Et la dernière image sur la restauration, c'est une amie chrétienne qui s'appelle Fabie, artiste peintre. Elle fait des tableaux et ça, c'est un puzzle que je lui ai commandé. Je pense qu'elle l'a fait pour moi. C'est un corps de femme très féminin qui fleurit et qui loue le Seigneur en pleine liberté. Et à l'intérieur, vous voyez, il y a son cœur. Eh bien, c'est le Père qui prend cette jeune femme, cette jeune fille dans ses bras et par son amour, elle est guérie et il vient la consoler. En fait, ce que Dieu m'a montré, c'est que le féminin, il a toujours été en moi. Seulement, je l'avais emprisonné, je l'avais congelé. Et donc, il était comme paralysé, le féminin en moi. Et du coup, c'était que le masculin. On a tous une part de féminin et de masculin en nous, à des proportions différentes. Et moi, c'est que le masculin qui avait pris le dessus. Et Dieu est venu par son amour, sa consolation, sa parole, sa vérité, faire fondre ce bloc de glace qui entourait mon féminin, et il m'a dit « Tu n'as pas à devenir une femme, tu es une femme. » Et sur cette parole, j'ai marché. Et sur cette parole, aujourd'hui, je me tiens devant en disant « Je suis une femme et libre en Christ. » Voilà, c'était pour la partie témoignage. Eh bien, on va rester dans le thème de mon témoignage de restauration. Je l'ai appelé la restauration selon le cœur de Dieu ou la guérison intérieure selon la Bible. Dans le psaume 147,3, mais il y en a plein d'autres des versets, j'ai pris celui-là. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Et Ésaïe 61 aussi hein, décrit tout le parcours de ce que Dieu fait tout au long d'une vie, à travers la sanctification, la restauration et la préparation, pour être transformé de gloire en gloire à l'image de son Fils. Tu peux mettre la deuxième. Voilà, donc ça c'est un cœur qui est réparé par le Seigneur. J'ai trouvé marrant cette petite image. Parce que vraiment le ministère du Seigneur, c'est pas de nous laisser intacts, comme disait Jean-Marc, mais vraiment de nous laisser nos cœurs qui ont été brisés, guérir pour qu'on soit pleinement restauré et capable d'entrer dans ce que Dieu a pour nous. Parce que si on est encore dans nos blessures, c'est compliqué d'avancer dans cette liberté, on est beaucoup centré sur nous-mêmes. Et on a du mal à manifester l'amour de Dieu pour les autres. J'aime bien cette image parce qu'elle est très parlante, on voit un poignard dans un cœur, ça peut être des paroles qui viennent dans le cœur. Ça peut être des paroles aussi qui sont non dites. Moi, mon papa, j'ai attendu des années que mon père me dise qu'il m'aimait, qu'il était fier d'avoir une petite fille, et pas déçu d'avoir pas eu de petit garçon. Et c'est des paroles qui n'ont pas été dites pour moi. Il a fallu aussi que j'y travaille et pardonner à mon père pour toutes ces paroles qui n'ont pas été dites. Et aussi ces paroles qui ont été dites, que c'était bien d'être fort, que c'était bien de pouvoir crocher dans le travail. Et toutes ces paroles qui disaient que c'était pas bien d'être une femme. Donc on reçoit tous des paroles tout au long de notre... Depuis qu'on est tout petit, on reçoit des paroles. Surtout par les figures d'autorité, ça a beaucoup d'impact dans nos cœurs. Papa, maman, les maîtres, les instituteurs, et puis après tout au long de notre vie, même des amitiés, des trahisons, toutes ces paroles, en réalité, elles ont réellement un impact. Et vraiment, il y a des coups qui viennent, et il y a un cœur qui est vraiment brisé. Et on arrive à la conversion, né de nouveau, avec ce cœur. Et Jésus, il ne méprise pas ce cœur. Il veut vraiment venir restaurer tout ce qui a été mis en éclat dans nos vies. Il y a un verset qui un jour m'a parlé, parce que peut-être vous êtes comme moi, mais à ma conversion, quand j'ai lu ce, il y a pas longtemps, j'ai lu ce verset et c'était la prière du Notre Père quand Jésus il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quand je me suis convertie, c'était facile de voir ma culpabilité par rapport à mon péché vis-à-vis de Dieu et vers les autres. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais volé pour auprès de mon patron avant de me convertir pour avoir ma consommation de drogue. Quand je me suis convertie, j'ai eu à cœur d'aller rendre un chèque pour restaurer ce que j'avais volé. Et de même, j'ai eu à cœur d'aller voir des amitiés que j'avais eues plus jeunes pour demander pardon par rapport à mon péché. Mais à aucun moment, j'avais lu la suite de façon juste. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et du coup, je n'ai pas traité la partie péché des autres sur moi. J'ai été offensée, celle-là, elle est restée caché pendant des années et des années après ma conversion. Et ce que je veux dire, c'est qu'on vit tous dans un monde pécheur, il n'est pas parfait. Et les offenses, elles viennent de toutes parts. Et on continuera de les vivre parce qu'on n'est pas dans ce monde parfait. Et c'est tellement important de traiter le péché des autres sur nous parce que ça nous construit et on réagit si on ne passe pas par Christ pour dès qu'on vit quelque chose de difficile. Et ça ne sert à rien de se dire non, c'est pas grave, oh là là, la personne, je peux comprendre qu'elle ait réagi comme ça. Du coup, on amenuise ce qui s'est passé et on ne traite jamais la blessure, l'offense qui a été créée dans nos cœurs. Donc, cette image de poignard, on pourrait en mettre des dizaines de flèches, etc. C'est à vous de demander au Seigneur où est-ce qu'il y a encore des poignards dans votre cœur. On peut passer à la diapo suivante. Ça, c'est nos réactions face aux blessures. Quand j'étais petite, et jusqu'à mes 22 ans, je n'avais pas la croix, je n'avais pas Christ pour réagir à mes blessures, donc j'ai réagi toute seule. Et c'est logique, on se met en mode survie en tant qu'humain. La douleur est tellement forte, on ne veut plus qu'on vienne... C'est comme une blessure que vous avez sur votre corps. Si vous vous êtes coupé et qu'on vient toucher, vous réagissez. Donc il y a des cœurs comme ça, ils réagissent, donc avec du fil barbelé, parce qu'ils se blessent aussi eux-mêmes. Parce que quand on a des souffrances et des blessures non guéries, eh bien on peut essayer de les soulager par plein de choses, même des addictions en tant que chrétien. Ça existe, parce que la souffrance est tellement forte et on ne sait pas que Dieu veut la guérir. Et on a surtout mis un gros couvercle sur notre passé. Et puis aussi, on peut blesser les autres dans nos relations. Un cœur qui a été blessé, eh bien blesse en retour s'il n'est pas restauré. Et il y a des gens comme ça, même dans le monde chrétien, ils sont inapprochables. Vous arrivez, vous faites piquer. Parce que c'est l'attaque, leur défense, ils ne veulent plus qu'on les touche, ils ne veulent plus, ça fait trop mal. La prochaine. Et je vais vous laisser me dire à quoi vous fait penser cette diapo. C'est le déni, tout à fait. Donc moi, dans mon témoignage, je vous ai dit, j'avais rangé ça dans un tiroir, ce qui m'était arrivé. Plein de choses, j'avais rangé dans des tiroirs d'ailleurs. Parfois j'en parle aussi comme notre cœur qui est notre âme, qui est comme une maison avec des pièces. Il y a plein d'endroits où on laisse Jésus venir, la salle à manger, des pièces de la cuisine, mais le grenier, la cave où il y a l'étoile d'araignée, où la lumière n'entre jamais, où il y a des choses, oulala, j'ai pas envie qu'elles viennent en lumière, et ben du coup on fait l'autruche, on est dans le déni. C'est des réactions qui sont complètement normales et humaines. Mais une fois qu'on est en Christ, il est bon de sortir de ces mécanismes pécheurs qu'on a eus à cause du péché des autres. Du coup, nos mécanismes deviennent pécheurs parce qu'on ne passe pas par la vérité et la restauration. Et il faut savoir que l'ennemi se plaît dans les ténèbres. Donc tant qu'on ne vient pas dans la lumière, eh ben, il continue. Il a un ministère hein, qui est incroyable, c'est de nous détruire, nous voler, nous mentir, nous broyer. Donc il faut qu'on ait le courage de venir auprès du cœur du Père qui connaît toutes choses, qui nous voit tels que nous sommes. On n'a même pas à avoir honte, il sait tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, et de venir dans sa lumière. Parce que là, après, l'ennemi, il n'a plus de prise. C'est fini, la restauration démarre. Jésus en prend entre ses mains ce qu'on a vécu. La prochaine... Là aussi, je pense que cette image est évocatrice d'un verset dans la Bible. À qui ça parle ? Oui ? Tout à fait, tout à fait. Et il y a un passage dans la Bible que je vais vous lire. Qui, moi, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, mais c'est tellement ce passage. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement entre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Donc, il faut savoir que là, c'est juste les forteresses de raisonnement, en fait, que nous avons tous en nous. On a construit des forteresses qui sont des mensonges. Hein. On a un mensonge après l'autre, des vœux après l'autre. On m'a fait mal. Du coup, plus jamais je rentrerai en relation avec quelqu'un, je serai vrai. Et je donnerai plus jamais accès à mon cœur ou je dirai, parlerai plus parce que je ne suis pas écoutée, je ne suis pas entendue. Et à travers ces réactions qu'on a quand on est blessé, on continue de construire nos forteresses et nos mécanismes continuent d'avancer. Et on continue d'avancer avec tous ces mécanismes. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur cette partie. Les blessures se présentent sous plusieurs formes et conditionnent 90% de notre comportement et réaction. C'est énorme, 90%. J'ai noté le mot trahi parce que il y a 5 grosses blessures dans lesquelles nous sommes tous confrontés et c'est facile de les mémoriser avec ce mot trahi. Donc peut-être dans le secret de votre chambre, vous pouvez demander au Seigneur, montre-moi où moi je suis touchée dans ces domaines de blessures. T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour injustice. Donc c'est les 5 grandes blessures qu'on peut recevoir. La prochaine... Alors j'aime beaucoup cette image parce que moi elle me parle de la lumière de Dieu qui vient à travers ce cœur brisé. Et à partir du moment qu'on vient dans la lumière, ça désarme. Ça désarme. Je disais tout à l'heure, il faut vraiment qu'on sorte des ténèbres. Qu'on invite Jésus à venir dans nos caves et nos greniers, dans nos tiroirs où on a fermé à triple tour, pour être vraiment libéré et pleinement libre. La prochaine diapo. Jésus a été blessé pour nos péchés, pour les péchés du monde entier. Et vous voyez, c'est la parole de Dieu avec sa couronne d'épines et le cœur. Et c'est l'image de la restauration, mais à la croix. Tout ce qu'on a vécu sans Christ, avant de nous convertir, il faut absolument qu'on y repasse à la croix pour être libéré, délivré. Et tout ce qu'on vit depuis ce jour avec le Seigneur quotidiennement, c'est toujours le même principe. C'est la croix qui est le centre de nos vies. C'est Jésus qui est au centre de tout ce qu'on vit, bonne et mauvaise chose. Et il faut y faire face et entrer dans la vérité pour éradiquer tous les mensonges que l'ennemi est venu déposer dans nos vies. Oui, j'ai noté ça, il faut accepter aussi de recevoir la consolation de Jésus. La parole du Seigneur est la vérité. Et comment on est libre? En étant dans la parole de Dieu. Quand on lit la Bible et qu'on voit qu'on est en dysfonctionnement par rapport à ce qu'on vient de lire, juste dire Seigneur, sonde mon cœur. Quand ce n'est pas un péché lié à une tentation, à ta chair, mais que tu dysfonctionnes continuellement dans des mécanismes, dans tes relations, pas ici à l'église, c'est dans votre quotidien, dans vos relations intimes, dans vos pensées le soir, quand vous avez en boucle, de toute façon tu ne sers à rien, tu n'es pas utile, tu n'arriveras jamais, jamais personne ne t'a aimé, Dieu ne t'aime pas. Toutes ces pensées, etc., il y a des blessures derrière. Donc dites juste au Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi. Et à travers ta parole, je suis libéré. Et le Seigneur va venir déposer des briques de son identité, de son amour et de vérité qui va vous libérer. Et la dernière diapo. Un cœur restauré entre les mains du Père. Moi, je pense qu'il y a encore des petites fêlures sur le mien, parce que pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup travaillé sur la restauration du féminin, et cette année, j'ai travaillé sur la restauration du masculin. L'image de l'homme étant encore compliquée pour moi, peut-être pour cette raison que je suis encore célibataire. J'avais des relations avec les hommes, etc. J'évitais beaucoup les pasteurs, parce que pour moi, c'était une menace. Et Dieu a commencé à restaurer mon cœur sur l'image de l'homme, très fortement, jusqu'à ce que je comprenne qu'un homme pouvait même pleurer à travers un psaume. Je ne l'avais jamais vu. Pour moi, un homme, c'était dur, cruel et méchant. Mais pas les femmes. Les femmes, elles ne sont pas brisées. Il n'y a que les hommes. Donc Dieu continue. Donc, je pense qu'il y a une grosse partie de mon cœur qui n'est plus brisée, qui a été restaurée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous. Mais il y a encore mais c'est tout au long de notre vie qu'on est sanctifié, transformé. Et c'est tellement bon de savoir qu'on a un Père qui nous aime. Vous connaissez le psaume 139, il m'entoure par devant, par derrière. Il connaît ce que je vais lui dire même avant que je dise un mot. Il connaît tout, il sait quand je viens faussement devant lui que je suis hypocrite, il sait quand je viens avec ma carapace religieuse, il sait quand je suis fâchée en colère et que j'ose pas lui dire que je suis fâchée en colère, que je le trouve injuste, et pourquoi j'ai vécu ça, et t'as vu comment elle est ma vie maintenant. Il sait tout, le Père. Il veut juste nous faire un câlin à l'ombre de ses ailes. La guérison, elle passe par la consolation et l'amour de Dieu. L'amour du Père, souvent, là, je sais que je suis aimée. Demandez au Seigneur que ça descende là. Parce que là, après, ça avance, ça marche. Le Seigneur, on sait qu'il est avec nous, même si c'est dur, même si on tombe, même si je chute. Je suis tombée, je ne sais pas combien de fois. 7 fois, le juste, il tombe. 7 fois, il est relevé par le Seigneur. La croix, dans tout ce que tu vis, la croix, c'est Jésus-Christ qui nous répare, qui nous restaure. Il répare ses enfants. Et c'est tellement important parce que je ne pourrais pas partir en mission si je n'étais pas restaurée. Vous imaginez l'identité catastrophique que j'avais avant. Une parole, ça me démontait. J'ai été en formation missiologue, en mission là dernièrement, et je faisais ma présentation de diaporama parce qu'ils veulent avoir un petit œil sur tout ce qu'on fait. Et juste avant que je fasse mon diaporama, parce que l'ennemi vient, il vient quand même. Et il y a une dame qui me dit, avec qui j'avais parlé juste un soir avec un monsieur, elle me dit, oh là là, Sabrina, tu nous fais penser à quelqu'un. Ah bon? Mais si, elle dit à son mari, tu sais, Brigitte, là, ah, il dit, ah ouais. Et moi, je dis, mais en quoi je vous fais penser à cette personne? Ah ben, t'es un vrai garçon manqué, hein, comme elle. Juste avant que je fasse ma présentation, où je parlais de ma restauration. Et là, elle me dit, en plus, elle me dit, bah, ça te parle? Non? Et là, je dis, non, pas du tout, je ne suis pas bien. C'est comme si une flèche avait été tirée dans une cible, en plein dans le mille. Et j'ai fait un boulot des années pour mon identité. Je suis enfant de Dieu, je sais que je suis une femme, que l'ennemi a voulu me détruire, mais Dieu a eu la victoire. Je suis à l'aise dans mes baskets. C'est pas vrai, je ressemble à une fille, dans mon cœur, à l'extérieur. Et là, j'ai une dame à côté de moi qui me fera mon accompagnement pastoral plus tard en mission. Et elle me pose des questions. Et là, je me mets à parler de ma restauration, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Hop, je suis de nouveau regonflée. Et puis, je vais vite aux toilettes avant de faire ma présentation. Et je dis, Seigneur, ça, c'est une parole de l'ennemi. Il veut me déstabiliser. Il ne veut pas que je dise ce que tu as fait dans ma vie. Je refuse cette parole. C'est ta vérité qui garde mon cœur. C'est dans ta vérité que je me positionne. Et c'est dans ta vérité que je vais en mission. Et je suis allée, je me suis levée, j'ai fait ma présentation. En plus, ils étaient dans mon groupe. Ils n'ont pas pipé mot. Donc tout ça pour dire que c'est un combat tous les jours. Et les armes que Dieu nous donne, c'est sa parole, l'épée de l'esprit. Enfin, vous les connaissez par cœur, je ne vais pas vous parler là-dessus. Mais c'est tellement bon parce que ce qu'on lit dans la parole devient tellement vivant. Et moi, mais maintenant, quand je vais dans la Bible, c'est plus « faut que je lise mes 2 chapitres hein, par jour ». J'étais très légaliste aussi. « Faut que je fasse tant de prières, faut que je jeûne, faut que je porte des jupes. Oh là 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 là, faut que j'aille à l'église tous les dimanches, faut que... » Mais non, mais maintenant je prends la Bible, je dis, oh Seigneur, quelle promesse est pour moi aujourd'hui. Quelle perle précieuse est pour moi. Je vais m'emparer, tu m'aimes, t'es avec moi, t'as... mes soucis, mais ils t'appartiennent. Et maintenant quand je vis des soucis, je dis, oh mais Seigneur, c'est un commandement, mais qu'est-ce que c'est un bon commandement de donner ses soucis à Dieu. Du coup, on s'en occupe plus. Bon, après, des fois, je le reprends, Mais mon Père est avec moi tous les jours. Il demeure en moi et je porte du fruit. Et pour pouvoir porter du fruit, être un serviteur de Christ, il faut être libéré dans tous les domaines. Chacun dans ses pas. Moi, ça a pris 26 ans et ça continue. Mais aujourd'hui, je peux aller comme une chrétienne mature, restaurée pour glorifier Dieu. Et je vais vivre des combats au Bénin, c'est sûr. En plus, je vous le dis en avance, mais c'est quand même le berceau du vaudou. Donc l'ennemi va être aussi présent là-bas. Donc voilà, ça c'était pour ma petite partie message, la restauration selon le cœur de Dieu. Et je vous passe sur la présentation de mon projet. Donc je pars dans 3 jours, 17 janvier, de Nantes. Je pars au Bénin, donc qui est entouré de ces petits pays, là où vous voyez... Donc c'est pas compliqué au niveau politique pour le Bénin, juste au niveau des frontières, mais moi je suis dans le centre, diapo suivante. Encore. Je suis dans le centre, là où il y a le petit cœur. C'est le cœur de Dieu qui bat pour les habitants de Parakou. 255 000 habitants. Donc 6 heures de bus après mon atterrissage à l'aéroport. Mais Dieu me donne le privilège de partir avec un couple australien et je pars en voiture. Donc mercredi soir, je serai au guest house et le lendemain, je pars en voiture. Diapo suivante. 50% de musulmans, 30% de chrétiens plutôt catholiques. Et 20% d'animisme, dont le vaudou, berceau de cette religion. Il faut savoir qu'ils pratiquent des mélanges absolument incroyables. Parce qu'on peut être un chrétien catholique et aller voir le marabout. Parce que si ça ne marche pas d'un côté, on va essayer dans l'autre. Chez les musulmans, c'est pareil. C'est vraiment traditionnel, le vaudou, au Bénin. Diapo suivante. Ah oui, mon projet, il a démarré il y a 4 ans. Donc il y a eu le Covid, donc ça s'est arrêté, je devais partir il y a 4 ans. Ensuite je me suis mis une grosse entorse, pied dans le plâtre, donc encore retardé avec une grosse complication. Et sur les petites cartes que je vous ai mis au bout et que Jean-Marc vous a envoyées, c'était prévu le Niger, si vous avez suivi l'actualité. Putsch, donc de nouveau entretien pour changer de destination et Dieu nous apprend l'adaptabilité et la souplesse. Ben, c'est ce que je vais vivre là-bas. Diapo suivante. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais travailler avec les enfants talibés dans un centre d'accueil. Est-ce que vous connaissez ce que sont les enfants talibés? Non. Les enfants talibés font partie du peuple peul qui se trouve dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Et c'est coutumier dans ce peuple, c'est traditionnel, de donner un enfant à un marabout, à un maître coranique, où il va être donc enseigné au Coran tous les jours, plusieurs heures par jour, et surtout va faire de la mendicité pour le compte du maître. Les enfants sont donnés et les parents ne subviennent pas du tout aux besoins des enfants. Donc, eh ben, diapo suivante, on côtoie du coup encore. Donc des enfants de 3 à 14 ans, encore. Et là, je vous ai mis encore, 3 photos. Donc on les reconnaît donc à Parakou, enfin dans toutes les villes d'ailleurs, avec ces boîtes de conserve rouges qu'ils ont autour du cou avec un petit fil. Et du coup, les gens, ils savent qu'il faut mettre de l'argent dedans. Donc ce sont des enfants qui souffrent de malnutrition, puisque s'ils ne ramènent pas le montant d'argent qui est convenu, eh bien ils subissent des maltraitances et des châtiments corporels, ils dorment sur des pauvres nattes, comme vous voyez là, et puis là c'est quand s'ils n'apprennent pas bien le Coran, ils reçoivent aussi des châtiments. Donc c'est des enfants en grande souffrance, et dans ce centre d'accueil, on les accueille, non pas pour les sortir, parce que c'est compliqué, on essaye quand même de les remettre auprès de leur famille, c'est vraiment des situations compliquées, mais au moins on leur donne une bulle d'air où on peut les aimer de façon pratique, ils peuvent prendre une douche, manger, on raconte des histoires, on fait des jeux et on annonce l'évangile de Jésus pour ses enfants. Diapo suivante. Encore. Je vais également participer à un groupe de soutien qui fait la prévention sida. Parce que c'est encore des pays qui sont beaucoup, beaucoup touchés. Et là, je vais accompagner une infirmière qui travaille à l'hôpital Alifa de Parakou. Et moi, je ne serai pas sur la partie médicale, mais plutôt sur la partie écoute et soutien. Troisième diapo, encore, campagne de la dignité, alors ben, encore, ça me touche beaucoup parce que quand j'ai contacté le directeur de la mission pour cet entretien, quand je lui ai raconté mon parcours, il m'a dit « mais Sabrina, on a besoin de toi, on n'a pas de personne avec ton profil pour la campagne de la dignité, des femmes qui ont vécu des abus, des femmes qui ont été mariées de force, parce qu'au Bénin c'est toujours le cas, des jeunes filles sont mariées de force, malgré les lois du pays, elles ne sont pas respectées ». Et donc c'est des groupes où on leur redonne combien elles sont précieuses aux yeux de Dieu, leur valeur, leur dignité que Jésus veut restaurer. et leur identité en Christ et on détruit les forteresses. C'est chouette. La suite. Encore. Il est prévu que je travaille également avec un centre d'accueil pour jeunes filles. C'est un couple pastoral qui récupère des jeunes filles qui sont abandonnées. Et elles étudient quand même en ville. Et là, je ne sais pas, il faut que je voie avec le pasteur quels sont leurs besoins, ce que je peux apporter, si c'est un groupe d'études bibliques ou autre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je vais certainement travailler dans ce centre d'accueil aussi. Et puis je vais donner des cours de français à des Nigérians. Je vais faire de l'aide de correction de rapport. Et puis je vais apprendre deux langues. Parce que les enfants Peul, ils parlent le foufoulde. Et si je veux les aimer, m'intégrer à leur culture, il faut que j'apprenne le foufoulde. Et puis je vais apprendre le bariba, parce que c'est la première langue parlée à Parakou. La deuxième, c'est le français. Mais intégration culturelle et de se mélanger au peuple, il faut apprendre les langues. Et puis être aussi habillé en boubou et tout, quoi. Donc j'ai tout ça dans les valises. Donc voilà, c'est un sacré programme. Hein. On continue. Je vous passe une petite vidéo de 3 minutes. C'est mon bureau d'envoi SIM France qui a 130 ans d'existence, qui est très sérieux et qui fait une petite présentation sur la mission de 3 minutes.
Le monde est composé de 17 000 communautés, dont 7 000 qui, aujourd'hui encore, vivent et meurent sans jamais avoir entendu parler de l'amour de Dieu. La mission a pour but de partager cet amour jusqu'aux extrémités de la terre et reste plus que jamais d'actualité. SIM est une mission composée de 4 ouvriers passionnés par ces communautés sans espérance et qui travaillent dans ce plat. Manifester la bonne nouvelle de Jésus-Christ en utilisant tous les moyens disponibles.
Ce que vous faites crie plus fort que ce que vous dites. Les gens ont déjà entendu beaucoup de théories, mais ils veulent voir maintenant la pratique. La foi sans les œuvres est une foi morte. Donc nous devons maintenant, de façon concrète, prouver l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour tout le monde. Nous devons leur prouver l'amour.
Ils ont besoin de naître de nouveau. Ils ont besoin de connaître Jésus-Christ dans leur vie.
Toute personne, en fait, qui a accepté Jésus-Christ est appelée à partager la bonne nouvelle.
Les projets pour manifester l'amour de Dieu en action se multiplient à travers le monde. Dans chacun d'eux, nous cherchons à atteindre le même objectif. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus en répondant aux besoins et en équipant l'église locale. Pour cela, SIM s'adapte jour après jour aux évolutions culturelles et géopolitiques de chaque endroit, avec des approches créatives en particulier face à la persécution et par des ministères variés.
Et c'est notre objectif premier, soigner en témoignant du Seigneur.
Vous vous souvenez d'un beau voyage?
Et c'est des occasions extraordinaires d'annoncer l'Évangile.
Notre rôle, c'est d'équiper l'Église à faire les activités.
On a adapté notre programme aux réalités de la région.
Nous accomplissons ainsi notre raison d'être. Convaincus que nul ne devrait vivre ni mourir sans avoir entendu la bonne nouvelle de Dieu, nous croyons qu'il nous a appelés à faire des disciples de Jésus-Christ dans des communautés où il est le moins connu. Pour poursuivre et achever cette œuvre, Dieu appelle chacun de ses enfants d'une manière spéciale. Allez, priez, partagez. Comment y répondras-tu ?
Voilà pour cette petite vidéo qui est très très parlante sur la mission. Je ne sais plus c'est quoi la prochaine diapo. C'est la fin. On peut la passer, j'en ai déjà parlé, court terme puis long terme. Encore. Il n'y en avait pas une autre avant ? Ok. Ouais, c'est pas grave, on va parler directement de ça. Donc ça coûte 17 000 euros de partir, oui, je suis une Française qui part au Bénin. 1 500 euros par mois, ça comprend les billets d'avion, vous pouvez tout déchaîner, les cotisations sociales, vaccins, visas, frais de vie sur place, logement. Tout, il faut cliquer. Voilà, assurance rapatriement, assurance santé, qui coûte très cher dès qu'on est français. Hein. Encore, il y en a plein. Logement, frais de vie, cotisation sociale, et la suite. Voilà. Ah, ça a été écrasé. En fait, ça dit « ensemble dans la mission ». Donc, bien sûr, j'ai besoin de l'Église, j'ai besoin de vous pour être partenaire de prière. Parce que sans la prière, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne sert à rien de le partager. Je ne vais pas faire de l'humanitaire. Je vais pour être un témoignage de l'amour de Christ à des peuples. Et puis, j'ai besoin également de soutien financier. Donc, si vous avez à cœur de soutenir ou de me à travers la prière ou de me soutenir à travers un don financier. Donc, il y a possibilité d'aller sur ma page, sur le site SIM France et d'adhérer à la lettre de nouvelles. Mais autrement, j'ai mis ici, voilà, un petit papier. Si vous souhaitez recevoir mes lettres de nouvelles, vous renseignez juste votre nom, prénom, adresse mail et vous aurez mes sujets de prière et aussi l'avancement de tout ce qui va se passer pour moi sur place. Donc, j'ai besoin vraiment de vos prières, de vous. Il ne faut pas se dire, tiens, on envoie une lettre de nouvelles, puis il y a plein d'autres gens qui prient. Non, chacun d'entre nous, on est vraiment impliqués. Tout le monde ne part pas en mission. Il y en a qui restent, et leur mission, c'est leur travail, leur famille, la sphère que Dieu a donnée. Il y en a d'autres qui partent. Mais tous, on est le corps du Christ, on est une équipe. Et moi, pendant des années, j'ai soutenu aussi des missionnaires. Aujourd'hui, c'est moi qui ai besoin de soutien. Et voilà, après, je compte sur Dieu, mais je sais que c'est l'Église qui pourvoit à travers Christ en chacun de vous. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, vous avez plusieurs moyens de m'aider pour ce qui est la partie financière. Il faut savoir que ça vous donne droit à 66% de déduction fiscale. Mais en réalité, c'est 75% depuis le Covid à hauteur de 500 euros. Donc si vous faites 100 euros, si vous êtes imposé, hein, vous aurez 75 euros de déduit. Donc en réalité, le don vous coûte que 25 euros. Vous pouvez faire un chèque. Donc ce sera noté sur les petites cartes que je vous ai prévues, les petits flyers au fond. Il faut surtout bien noter pour le chèque Sabrina Garandel parce que j'ai un compte missionnaire. Et pour pas que ça aille à toute la mission, mais vraiment spécifiquement à mes besoins. Vous pouvez faire un virement bancaire que vous recevez le RIB en ligne ou un don par carte bancaire, tout simplement. Et me soutenir aussi si vous avez à cœur mensuellement. Si j'ai 30 personnes qui me soutiennent, 50 personnes qui soutiennent à 30 euros par mois, je couvre mes finances tous les mois. Diapo suivante. Voilà, déduction fiscale. Ça, c'était pour les plus jeunes, ceux qui ont un QR code pour aller directement sur ma page. Et autrement, j'ai mis des petits magazines Simerger de mon bureau là-bas. Tout est gratuit, vous prenez. Et les petits flyers pour avoir un peu mon contexte et puis retrouver le site. J'ai terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre attention, vos sourires qui m'ont beaucoup aidé, vos visages qui sont splendides. Et puis, je suis disponible, bien sûr, après le culte pour échanger et partager avec vous tous. Merci.
Oui, j'ai pas trop apprécié le coup du QR code pour les plus jeunes.